5, 4, 3, 2, unité. Top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge Espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
On lance ça en force, l'Auberge Espagnole de ce mardi 10 septembre 2013. Eh bien, nous donnera l'occasion de présenter le 29e Café Climat de l'Agence Locale de l'Énergie de Montpellier. Un Café Climat sous forme de balade à vélo autour de la transition énergétique dans notre bonne ville. Pour nous mettre en jambe, eh bien, partons faire un petit peu de vélo avec les Presidents. Bike Riding, Mr. President. Pas de date de concert à venir pour ce groupe. C'était histoire de se mettre en jambes pour ce Café Climat sous forme de balade à vélo. C'est ce soir de 18h à 20h. Et Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie de Montpellier est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors 29e Café Climat de l'Agence locale de l'énergie qui se trouve place Paul Bec, peut-être préciser aux néos arrivants de Montpellier puisqu'on est en pleine rentrée. L'Agence locale de l'énergie était auparavant sur l'esplanade au centre-ville, existe depuis...
Ça va faire depuis un peu plus de quasiment 6 ans maintenant.
Quasiment 6 ans.
Effectivement, donc on a un statut associatif et on fait donc de l'information, du conseil, de l'accompagnement des porteurs de projets en premier niveau sur toutes les questions liées à la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau dans les bâtiments.
Voilà, sous forme de rendez-vous comme le Café Climat qui propose de faire se rencontrer des professionnels, les animateurs de l'ALE et puis le public qui vient très régulièrement et plutôt très nombreux.
Alors effectivement, pour ce coup-là, effectivement, on est complet. Hein, donc pour la visite qui s'annonce ce soir, nous sommes complets. Donc il y a une vingtaine de personnes là, qui vont faire un petit tour en ville pour aller regarder un petit peu la ville sous un angle un petit peu différent, sous l'angle un petit peu des économies d'énergie, de la transition énergétique.
Voilà, donc 29e Café Climat, une balade à vélo pour découvrir les bonnes pratiques, celles à éviter aussi en matière d'efficacité énergétique. Les cyclistes seront guidés par les conseillers de l'ALE et des professionnels impliqués sur un parcours urbain cyclable tout public, des professionnels qui seront eux aussi en vélo.
Alors exactement, tout le monde sera à vélo. Les professionnels en question, il s'agit en fait donc d'un architecte urbaniste du CAUE et puis d'un spécialiste des questions environnementales. Donc c'est Patrick Buffard, l'architecte urbaniste, et Laurent Granger, le spécialiste des questions de qualité environnementale, notamment au CAUE. CAUE de l'Hérault, je rappelle peut-être qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc c'est une structure associative également qui fait donc un petit peu le pendant de ce que fait l'ALE hein, pour vraiment dans les grandes lignes. Donc ils accompagnent les collectivités mais aussi les particuliers sur les questions liées à l'architecture et l'urbanisme. Mmh. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont un regard qui est un petit peu différent. Quand nous on parle kilowattheure, mètre cube, degré, et bien eux ils parlent sensation, fraîcheur, forme urbaine, historique un petit peu de la construction. Donc c'est vraiment un regard croisé qui est vraiment intéressant.
Alors Montpellier à Milan, ça va être l'occasion de faire une balade entre le centre historique qui témoigne de cette ancienneté, les quartiers nouveaux qui témoignent, on va dire, de l'élan urbanistique d'il y a une vingtaine d'années, et puis les nouveaux quartiers qui témoignent aussi d'une prise de conscience aussi en termes d'architecture et d'urbanisation. À peu près 4 km de circuit, pas tout à fond comme on aurait pu s'en douter en écoutant Mr. President, mais sur un rythme qui permettra aussi de discuter, de découvrir.
En fait, voilà, l'idée, c'est qu'on va sur le petit timing du parcours. Là, donc, on a à peu près deux heures. Hein, on finit par un petit verre, un petit apéro pour échanger plus tranquillement. Et donc, sur l'ensemble du parcours, on va ponctuer de différents points d'arrêt où là, on va pouvoir un petit peu faire le point sur le quartier en question et puis les choses qu'on voit qui sont visibles. Et aussi, c'est là aussi où c'est l'intérêt pour les participants, les choses qui sont invisibles. Donc, le côté gestion énergétique, des choses comme ça, la maintenance, des choses qui sont un peu méconnues, qui sont vraiment en partie, on parle de transition énergétique, mais la transition énergétique, c'est pas juste mettre des panneaux solaires sur un toit, hein, parce qu'après, s'ils fonctionnent pas, ça marche pas. Donc il y a aussi tous ces aspects là et donc effectivement ce sera un petit peu en trois temps. Donc on va d'abord voir un petit peu au niveau du centre historique parce qu'effectivement à l'époque l'énergie était rare et chère, donc les choix étaient faits en fonction. Donc il y a peut-être des choses très positives qui ont été mises en place, mais d'autres qui étaient maintenant qui s'avèrent un petit peu obsolètes. On fera après un peu la transition sur le quartier d'Antigone où il y a des choses très intéressantes avec notamment le réseau de chaleur. On fera vraiment un zoom là-dessus parce que c'est assez peu connu et il y a des choses très intéressantes là-dessus et il y a des réflexions pour le basculer tout bois, donc on peut basculer d'un
réseau. Chaleur, ça veut dire que tous les habitations, les appartements Antigone ont un chauffage central collectif.
Voilà, alors c'est pas qu'un chauffage central effectivement au niveau de chacune des copropriétés. Par exemple, c'est pas au pied des immeubles, c'est une grosse chaufferie centralisée qui est pas très loin du Lez et qui alimente en fait donc par des conduites d'eau chaude tout un tas de bâtiments. Il y a plusieurs centaines de logements qui sont alimentés comme ça et c'est intéressant parce que là, si on bascule ce réseau-là avec du bois énergie, si on le chauffe au bois, si l'énergie est produite par le bois, c'est intéressant. On a basculé des centaines de logements quasiment sans leur demander leur avis des gens directement en bois, donc c'est une grosse avancée d'un point de vue énergétique.
Ouais, parce que si chaque propriétaire avait dû investir pour moderniser son installation, tout le monde l'aurait pas forcément fait et puis l'aurait pas forcément bien fait, donc là c'est assez intéressant, d'autant que la filière bois on l'avait vu en début d'année avec une représentante, une des intervenantes d'ailleurs du Café Climat, il y a suffisamment de ressources bois en Languedoc-Roussillon pour chauffer tout le monde, chose que les gens de la région ne s'imaginent pas forcément.
Effectivement, sur le bois, il n'y a pas forcément de culture bois, entre guillemets. On n'est pas dans le Jura ou dans les Vosges, ici à Montpellier. Mais voilà, par contre, aux alentours, et puis notamment dans le nord de l'Hérault, il y a tout un tas de filières qui n'attendent que ça, justement, une dynamisation par des gros projets qui vont comme ça faire une demande de bois pour pouvoir se structurer, s'organiser et pouvoir sortir du bois facilement. Du bois, effectivement, vous l'évoquez, qui a en possibilité de... Enfin, on peut le récupérer, en tout cas. Voilà, il y a pas de quoi... L'idée n'est pas de taper, entre guillemets, dans la forêt, mais plutôt de bénéficier du renouvellement naturel de la forêt.
Mmh. Et d'autant que ça pourrait créer de l'emploi en ces temps de disette au niveau de l'emploi, intéressez-vous-y, vous qui nous écoutez. Donc ce soir, lors de ce parcours, il y aura donc le quartier centre, le quartier d'Antigone, et puis ça se terminera par le plus du côté du millénaire, etc.
Effectivement, du côté de tout ce qui est Port Marianne, hein, oui. Voilà, donc sur la rive gauche du Lez, là, en face de la mairie, où là, effectivement, on aura un petit peu une vision globale, parce que ce qui est intéressant dans ces nouveaux quartiers, donc il y a à la fois des bâtiments, je dirais, intrinsèquement performants, donc qui consomment peu d'énergie, avec des installations d'isolation, de ventilation, de production d'énergie intéressantes. Là aussi, des petits réseaux de chaleur qui sont au bois, prévus au bois, donc c'est aussi intéressant. Et puis là où c'est peut-être aussi méconnu, c'est que plus globalement, carrément à l'échelle du quartier, il y a une approche vraiment bioclimatique. Donc ça nous apparaît intéressant de voir un petit peu voilà, ce qui se faisait, le bioclimatisme, on va dire, des anciens, mais qui était un petit peu, on appelle ça vernaculaire, c'est en gros, c'était issu de la pratique, un petit peu en fonction de ce qu'ils avaient sous la main. Des choses comme Antigone, il y a des choses très positives et pour peut-être des petites erreurs.
Et puis aussi des choses un petit peu.
Oui, voilà, d'un point de vue thermique, hein, si on regarde simplement cet angle-là, il n'y a pas de protection solaire, il n'y a pas de balcon pour le séchage, donc les gens, ils sont obligés d'acheter ou une clim parce que l'été, ils n'en peuvent plus, ou un sèche-linge, pardon. J'en ai pas, c'est pour ça que j'ai
dit. Qui consomme beaucoup d'énergie.
Voilà, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc il y a des choix architecturaux comme ça, qui impactent finalement sur la vie quotidienne et donc sur la consommation d'énergie. Donc c'est des choses qu'on peut tout à fait dire et mettre en avant. Et donc voilà, c'était intéressant de finir sur les nouveaux quartiers où là l'idée, en tout cas l'intelligence collective voudrait qu'on ait un peu pris le meilleur de différentes époques pour essayer d'amener ces quartiers-là vers des choses à énergie positive. C'est le cas pour des écoles, par exemple. Il y a l'école Chengdu là, qui est sortie de terre dans ce avenue Raymond Dugrand, l'avenue de la mer. Et donc, c'est une école qui, à la fin de l'année, aura produit plus d'énergie qu'elle n'en aura consommé pour ses besoins. Donc, c'est quand même intéressant d'en parler aussi.
Voilà, j'allais poser la question, justement, dans ce patchwork multicolore qu'on peut apercevoir sur autoroute, avec des bâtiments qui ne se ressemblent pas forcément les uns aux autres, etc. Il y a donc des bâtiments à énergie positive, ce qui est l'étape d'après... les bâtiments à basse consommation.
Tout à fait, effectivement. En termes d'obligations réglementaires, c'est prévu pour 2020, mais c'est vrai que là, la mairie a anticipé. Il y a 3 écoles qui sont sorties de terre à énergie positive, donc c'est intéressant. Il y a aussi, la LE par ailleurs est engagée aussi dans un projet européen qui va un petit peu analyser la rénovation des écoles en vue de les amener à énergie positive. Mmh. C'est un gros morceau, un gros boulot. Mais voilà, donc il y a des pistes comme ça, c'est tout à fait des éléments qu'on pourra évoquer ce soir.
Ce qui implique que sur un bâtiment ancien, on peut faire des rénovations qui l'amènent à devenir un bâtiment à énergie positive.
Voilà, techniquement, je dirais, tout est possible. Après, c'est quand même les gens qui sont dedans. Hein. Et en l'occurrence, là, si on parle des écoles, c'est à la fois l'équipe enseignante, tout le personnel qu'il y a autour et puis les enfants. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a différents angles d'attaque, entre guillemets, si on peut dire. Parce qu'eux participent finalement à l'impact énergétique de leur bâtiment. Si les gens ne font pas attention, laissent monter la température, ne sont pas du tout conscients qu'ils sont dans un bâtiment peut-être un peu plus intelligent qu'un bâtiment basique, il faut aussi pouvoir les associer à la démarche. Et c'est intéressant aussi pour ça.
Mmh. L'utilisateur du lieu doit aussi être un acteur de cette logique énergétique.
Exactement, tout à fait.
Alors justement, on voyait au printemps dans la presse spécialisée, on commence à parler d'exergie, un terme qui n'est pas très connu en ce moment, mais qui consiste justement à dire qu'est-ce qu'on utilise comme énergie et qu'est-ce qu'on perd finalement dans l'utilisation. Par exemple, un véhicule à 4 roues qui brûle des hydrocarbures pour avancer ne récupère pas toute l'énergie des roues qui tournent, etc. etc. Donc on commence à rentrer dans une logique d'économiser l'énergie, mais de penser ça de façon encore plus rationnelle. D'aller vraiment au fond du problème.
En fait, c'est un peu l'idée. Hein, oui. En fait, quand on a une quantité donnée d'énergie, hein, si on a 100 litres de gasoil, par exemple, ou d'essence, l'idée, c'est de les maximiser, ces 100 litres. Et s'il y a 90 litres qui servent finalement à échauffer le moteur, à partir dans l'échauffement des roues, des freins et autres, et dans le poids de la voiture, on a perdu, parce que finalement, il n'y a qu'une part infime qui sert vraiment à des besoins de motricité. Je prends l'exemple, le rapport entre une moto et une voiture, par exemple, je dirais, à service rendu égal, hein, trimballer, entre guillemets, un bonhomme de peut-être 80 kilos, une femme ou autre, mais une personne, on va dire, voilà, bah, entre une moto et déjà entre une moto, une voiture, un vélo, bon, clairement, on n'a pas le même rapport, on va dire, poids, personnes transportées. Et par rapport au service rendu, effectivement, il y a des gaspillages dingues. Bon, les voitures, hein, c'est un exemple très, très intéressant.
La voiture devient rentable quand il y a 4 personnes dedans.
Bah, par exemple, la voiture, on a un échauffement qui se fait au niveau des freins. Bah, c'est l'énergie cinétique de la voiture qui est complètement perdue en fait en chaleur, mais qui sert absolument à rien. Sur les voitures électriques, par exemple, ou certains modèles hybrides, vous avez en fait le freinage qui fait remonter de l'énergie dans la voiture et qui est un peu récupéré. Alors, le rendement n'est jamais... voilà, on perd toujours un peu dans ces chaînes de transmission. Il y a toujours des rendements à chaque étape. Mais clairement, voilà, il y a pas mal de procédés d'optimisation. Et en tout cas, les appareils basiques tels qu'on les connaît actuellement, bon, les voitures, notamment dans le transport, hein, c'est clair qu'ils ne sont pas à leur optimum de performance. Après, il y a des notions de sécurité, bien entendu, de résistance et d'autres, hein, bien entendu. Mais voilà, il y a encore un gros chemin à faire par rapport à ça.
Voilà, un petit clin d'œil à nos amis constructeurs automobiles qui peuvent continuer à faire des efforts pour ceux qui en font déjà. De 18 à 20 heures, donc, aura lieu cette balade. À 20 heures, ce sera la fin de la balade, j'imagine, à la LE.
Alors, non, parce que le parcours est assez... Oui, on avait imaginé de le faire à la LE pour aussi faire connaître le lieu, Place Paul Bec, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, on finira du coup du côté de Port-Marianne, là, voilà, autour d'un verre, de façon conviviale, pour que les gens, voilà, qui sont encore frustrés de ne pas avoir assez échangé puissent discuter plus librement. Voilà, donc, pas retour à la LE pour ce coup-là, mais voilà, le prochain Café Climat aura lieu sans doute à la LE.
Voilà, donc, et puis, vu la mobilisation importante, puisque tu le disais en début d'entretien, c'est complet. Donc, bah, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent « Ah, tiens, je vais prendre mon vélo, je vais y aller », eh ben, il faudra qu'ils attendent la prochaine édition de ces balades à vélo qui vont, du coup, se reproduire.
Oui, en fait, effectivement, on s'est rendu compte que les gens étaient très intéressés. Ça apporte un regard différent. Ça fait penser aux visites de l'Office de tourisme, là, sur les aspects eau ou alors parc. Voilà, il y a des différentes thématiques de visite de la ville. Alors, on peut tout à fait imaginer de faire un parcours énergie et puis de montrer un peu des choses intéressantes. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Là, c'est forcément un regard finalement limité, hein, parce qu'on ne peut pas aller partout dans la ville, même si on le voudrait. Voilà, et puis donc pour des questions de groupe, donc sans doute, voilà, on sera amené à refaire ce genre de parcours. On a des idées aussi d'audio-guide, d'autres choses comme ça sur ces thématiques, mais c'est encore dans les cartons.
Voilà, on aura tout loisir lors de notre prochaine entrevue de l'aborder. Le prochain Café Climat, lui, il aura lieu le 12 novembre et il aura pour thème un architecte. Pourquoi faire son rôle dans mon projet de construction ou de rénovation énergétique ?
Alors tout à fait, bah, ça contribue, enfin, ça veut dire, c'est dans la même lignée de ce que j'évoquais, c'est d'avoir des regards un peu croisés sur la thématique énergie, parce que c'est vrai que les gens qui sont techniques, thermiciens de l'énergie, ingénieurs d'énergie, ils n'ont que ça à l'esprit, et en fait, bah, les vrais gens, entre guillemets, eux, ils n'ont pas forcément, voilà, ils ont besoin aussi de vivre dans un logement, de vivre confortablement, et c'est vrai que de croiser les regards, notamment avec les travaux, voilà ce que veut dire les missions d'un architecte, on n'est pas là pour dire prenez absolument un architecte pour tout ce que vous faites, mais voilà, c'est intéressant, parce que c'est une profession qui est vraiment à la croisée des chemins, entre la performance énergétique, ce que nous, on et puis aussi l'habitabilité, voilà, optimiser. C'est vrai que souvent, je prends cet exemple-là, un petit logement, bah, s'il est complètement... je fais le lien avec l'aspect économie de matériaux et d'énergie. Si on se dit, tiens, on va déménager dans un logement plus grand, donc qui va consommer plus d'énergie, pourquoi pas réaménager un logement petit, à la fois en termes de performance énergétique, mais aussi d'optimisation, je dirais, l'aspect usage quotidien. Voilà, ça peut être intéressant d'apporter ce genre de regard pour ne pas surdimensionner nos habitations, par exemple. C'est juste un petit exemple, mais c'est pour illustrer le fait que c'est intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire de l'habitat, quoi qu'il arrive.
Mmh. Alors, le lieu de ce prochain, de ce 40e, non, de ce 30e Café Climat n'est pas encore défini. Mais eh bien, vous allez sur ale-montpellier.org et ce sera communiqué très prochainement, je l'imagine. L'actualité de l'Agence locale de l'énergie, c'est aussi l'exposition La Maison économe. On parlait justement de l'utilisateur du bâtiment. Quel est son rôle finalement dans tout ça? Une exposition qui poursuit son chemin et qui sera qui est jusqu'au 10 octobre à la mairie de La Vérune et qui sera du 14 au 31 octobre à la Maison pour tous André Chanson à Montpellier. Une exposition qui propose sensibiliser les gens au travers de 4 pièces de la maison couramment utilisées.
Tout à fait, en fait, c'est le quotidien, qu'on soit locataire, propriétaire, on peut tout à fait se retrouver là-dedans. Donc il y a tous les gestes qu'on connaît, hein, arrêter le robinet quand on se lave les dents, ça c'est du basique. Mais
voilà, réparer les fuites quand on les constate.
Bah déjà, effectivement, c'est même plus important. Voilà, donc c'est avoir un petit peu un aperçu de tout ça. Et puis vraiment, ça fait le lien avec toutes nos activités, parce qu'en parallèle aussi, on lance donc le défi famille à énergie positive.
Ah oui.
Voilà, là cet automne. Donc là, l'idée c'est de faire constituer les équipes, hein, son club de sport, ses voisins, ses amis, dans son quartier ou autre. On se donne un nom d'équipe, on est entre 6 et une dizaine dizaines de foyers, on va dire. Ça peut être une personne seule, une famille. Mais voilà, ça s'appelle Famille à énergie positive. Et on va regarder sur tout l'hiver qui arrive, en fait. C'est un petit challenge. Et les gens, simplement par des petits équipements, des petits achats, des comportements, beaucoup de comportements, on va essayer de voir pour leur faire réduire leur consommation d'énergie, comparer avec l'an dernier. Et puis l'idée, c'est que ceux qui auront économisé le plus seront les gagnants. Donc voilà, c'est un petit défi qu'on va se lancer là.
Avec un objectif à 8%, non ?
Alors en fait, voilà, l'engagement des gens, c'est 8%, mais en fait, ça s'est déjà fait dans d'autres régions. C'est la première fois qu'on le fait sur Montpellier et l'agglomération ici. Mais dans d'autres régions, donc, il y a un petit peu de retour d'expérience. Et les gens s'engagent à la base sur 8%, mais au final, en moyenne, ils font 12%. Donc ils vont au-delà de leur simple engagement des 8%, donc c'est intéressant. Et voilà, donc il n'y a rien, y a pas à sortir 30 000 euros par logement, c'est pas du tout le but, il n'y a pas besoin d'acheter grand-chose, c'est quelques dizaines d'euros, un grand maximum, mais c'est surtout convivial et pour échanger un peu sur les pratiques, voilà comment on fait, puis se rendre compte peut-être de dérives de chez soi en termes de consommation d'énergie.
Mmh, Famille à énergie positive, qui est le nom de domaine du site consacré à ça, c'est un .fr
C'est .fr, mais sur un moteur de recherche, Famille à énergie positive, ça ressort facilement.
Voilà, et puis autre actualité, bien ce sera la fête de l'énergie, ça ce sera du 17 au 20 octobre, bien il y aura beaucoup d'animations, ça va se passer un petit peu partout dans Montpellier.
Oui, alors en fait, la fête de l'énergie, c'est pour mettre en avant le réseau, là, je dirais carrément au niveau national, dont fait partie l'ALE localement, donc ce qu'on appelle les espaces info-énergie. Donc c'est, voilà, ça regroupe toutes les structures similaires à la nôtre qui font de l'information et du conseil de proximité gratuit et neutre sur ces sujets énergétiques. Et donc il y a à peu près 300 structures en France et chacune se mobilise localement. Donc nous, il y aura des visites donc, de bâtiments en fin de construction du côté de Fabregues. On ira aussi sur un marché le 16, là, faire ce qu'on appelle un porteur de parole. Donc on va interpeller un petit peu les gens sur les questions d'énergie. Ça, c'est un peu nouveau pour nous. On va voir un peu ce que ça donne pour aller prendre le quidam de la rue, voir un peu ce qu'il en pense et recueillir un petit peu son sentiment. Voilà, il y a aussi un atelier pour tous dans un atelier technique sur les consommations d'énergie pour tous, à la maison pour tous, André Chanson. Et voilà.
Voilà, donc ce sera les rendez-vous, ce sera le mercredi 16 octobre à 10h au marché d'Antigone, place du Millénaire, pour ce porteur de parole en partenariat avec le GEFOSAT. Le GEFOSAT qui est.
Alors qu'il y a un autre espace info-énergie, là, présent également à Montpellier, et qui est plus fléché sur les territoires nord de l'agglomération, mais avec qui on travaille très régulièrement. Donc c'est aussi, voilà, on se met ensemble pour faire ce genre d'action.
Toujours le mercredi 16 octobre à 15h, ce sera à la Maison pour tous, André Chanson à Montpellier. Donc pour cet atelier pratique, économiser l'eau et l'énergie chez soi, ce sera sur inscription, donc auprès de la Maison pour tous, André Chanson, que vous pouvez contacter au 04 67 75 10 55, il le redit, 04 67 75 10 55. Et puis le jeudi 17 octobre à 18h à l'ALE de Montpellier, donc place Paul Bec, ce sera la présentation du défi des familles à énergie positive. On peut s'inscrire aussi auprès de l'ALE au 04 67 91 96 deux fois, 91 96 deux fois. Et puis le 18 octobre à 14h, ce sera à Fabregues, il y aura la visite d'un immeuble neuf labellisé BBC. Là, on peut y aller en vélo aussi.
On peut y aller en vélo, c'est sur inscription. L'idée, c'est de voir voilà, comment on arrive à cette performance-là, en fait. Et puis, il y a une chose un petit peu innovante, là, c'est le système de production d'eau chaude sanitaire qui a un mix entre solaire et pompe à chaleur. Donc, voilà, pour le technicien que ça intéresse plus particulièrement, on pourra aborder ce sujet-là.
Voilà, pour aller puiser des idées, pour éventuellement rénover son propre habitat, pour transformer une maison individuelle en bâtiment à énergie positive. Ça aussi, c'est possible.
C'est possible, pourquoi pas.
Tout est possible. On rappelle que l'ALE, on la retrouve sur internet, ale-montpellier.org. Avons-nous fait le tour des rendez-vous ?
Je crois qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Effectivement, la rentrée est très chargée pour l'Agence locale de l'énergie.
Voilà, on se retrouvera sans doute le 12 octobre pour c'est le 12 novembre, le prochain Café Climat. Mais on aura l'occasion, peut-être dans le courant du mois d'octobre, de faire un point sur toutes ces manifestations, notamment autour de cette fête de l'énergie organisée par l'ALE et les espaces info-énergie. Peut-être un dernier point. Il y a beaucoup, tu le disais, il y a beaucoup d'organismes qui se préoccupent, qui sensibilisent, qui font l'information sur ces questions énergétiques. Est-ce que la synergie entre tous ces organismes est toujours là ou est-ce que y a des coordinations encore à inventer ?
Alors, on a plutôt un fonctionnement en réseau, notamment pour toutes les structures espaces info-énergie là, en Languedoc-Roussillon, qui fonctionnent plutôt bien. Il y a bien sûr des choses qu'on pourrait améliorer. Et après, en parallèle de ça, là, l'État est en train de réfléchir donc, à un grand plan de rénovation énergétique au niveau
national. Donc l'État, c'est l'ADEME. Hein,
alors, c'est carrément donc, l'État, c'est même le président François Hollande qui avait décidé ça. Et donc l'ADEME regarde un petit peu ça localement avec notamment l'ADREA, la direction régionale énergie, aménagement et logement. Donc ça, c'est l'État en région. Alors l'ADEME, c'est, voilà, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ça, mais grosso modo, voilà, il y a la machine de l'État qui se met un petit peu en route par rapport à ça. Parce que, alors, on évoque les espaces info-énergie, mais il y a aussi d'autres acteurs sur ces questions-là, que sont notamment les opérateurs ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, coordonnée localement par l'agglomération dans le cadre d'un plan spécifique de rénovation des logements. Alors, c'est plutôt réservé à des revenus modestes, donc c'est intéressant parce qu'il y a des aides spécifiques qu'on peut leur fournir. Mais tout ça va être un petit peu remis en... Les cartes vont être un peu rebrassées. L'idée, en fait, c'est ce qu'on appelle d'avoir un guichet unique. C'est que les personnes qui veulent se renseigner sur la rénovation énergétique puissent avoir un numéro de téléphone unique, être facilement réorientées, soit sur les opérateurs, justement, ANA, pour qu'ils puissent être guidés dans toutes les aides disponibles éventuellement, et complémentairement aussi vers les réseaux espace info énergie pour avoir, je dirais, un regard un petit peu, voilà, pour décanter un petit peu leur projet de rénovation, quelle isolation, quelle épaisseur, quelle chaudière, ce genre de choses. Mmh. Voilà, donc c'est en train de se mettre en branle, entre guillemets, et ce sera opérationnel dans les semaines à venir.
Très bien, Nicolas, merci d'être venu dans les studios de Divergence, tu es toujours le bienvenu, et on se retrouve très prochainement.
C'est toujours un plaisir, merci.
Au revoir.